Top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Il est 9h40 sur France Inter, c'est parti pour une dernière semaine d'Instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
Peut-on encore parler d'aventure ? C'est le mot le plus galvaudé de toute la télé. Même les petits chanteurs de la Nouvelle Star se disent fiers de participer à l'aventure. Et pourtant d'aventure, de boue et de sueur, les chaînes privées n'ont jamais autant fait leur miel. M6 multiplie les programmes du bout du monde, TF1 aussi. Dans ce match revient de loin une émission qui avait disparu depuis 4 ans, Pékin Express. Des duos lancés avec 1 euro seulement pour se débrouiller tous les jours, dans une course infernale à travers la Malaisie, les Philippines et le Japon. Les vomis et les chamailleries, c'est reparti dans un contexte qui a néanmoins beaucoup changé pour le jeu d'aventure.
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Stéphane Rothenberg.
Bonjour.
Voilà, visage d'M6, animateur historique de Pékin Express. Vous êtes accompagné de Thierry Guillaume.
Bonjour. Bonjour.
Et non pas Terry Gilliam, mais ça me fait rire depuis une semaine. Le producteur de Pékin Express, ça s'appelle La Belle Aventure, la maison de production qui fabrique Pékin Express. Mais pas que, on va en parler parce que vous en produisez d'autres. Pékin Express qui revient donc le 12 juillet, vous accompagne tout l'été sur M6. On prévoit la finale pour début septembre.
Ça va être quelque chose comme ça.
Voilà, on dit un petit mot d'actualité. Et puis ensuite, on se lance dans l'aventure. La rédaction de BuzzFeed s'est déclarée en grève. Le site d'info joue ces jours-ci sa survie. La fermeture fin juillet a été annoncée par l'actionnaire américain. Souvenez-vous, c'est intervenu et c'est tombé il y a quelques jours. Ils ont décidé de se battre, tentant la suspension de cette décision auprès de la justice française. Audience en référé, donc, cet après-midi, sur la légalité de la procédure de licenciement économique qui frappe les 14 salariés du site. Ils étaient nos invités dans l'Instant M la semaine dernière. Le papillon redevient chenille et notre carrosse redevient citrouille. Les jolis mots de Daphné Roulier hier soir sur Canal+, pour la dernière de l'effet papillon. Clap de fin pour cette belle émission produite par l'agence Kappa qui depuis 12 ans sillonne elle aussi la planète. Une vache de grand reporter à ses trousses. Ah, le générique de Pékin Express. Alors, la première saison, Pékin Express est parti de Paris pour arriver en Chine. Depuis, c'est comme le Paris-Dakar, ça ne part jamais de Paris et ça n'arrive jamais à Dakar. C'est
absolument,
ça, Stéphane Rothenberg.
Oui, c'est le principe.
Voilà. Donc, vous avez déjà traversé une trentaine de pays. On va revenir sur cette saison 10, donc 2014. Après quoi, donc, le programme a été interrompu. Il revient là. Il n'a pas été diffusé depuis 4 ans. Pas tourné, pas diffusé depuis 4 ans.
Oui.
La saison 10, ça s'appelait À la découverte des mondes inconnus, Birmanie, Bhoutan, Inde, Sri Lanka, tournage en Inde. Rock'n'roll le tournage en Inde.
Pour l'instant, les autorités ne veulent pas nous faire partie.
Il y a le stress de ne pas savoir ce qui se passe et pourquoi ils nous retiennent aussi.
Ça peut durer une heure, ça peut durer deux jours, trois jours, personne ne sait.
Hier soir, la situation ne s'était toujours pas améliorée.
On voulait sortir.
La situation peut dégénérer pour un rire.
Oh, c'est chaud.
51 personnes interceptées par la police.
L'armée même.
L'armée indienne, Stéphane Rothenberg.
Oui.
Donc, souvenir.
Oui, bah, c'était particulier, hein, parce que c'est vrai que, comme on l'a entendu, on ne sait pas vraiment comment ça va tourner.
Mm.
On voit débarquer des militaires, qui forcément se prennent au sérieux, sont des militaires. Alors que nous, on est dans un programme de télévision, donc on se prend au sérieux, mais enfin bon, on sait bien que c'est pas la guerre. Et eux vous prennent pour des espions. Alors, on en rigole.
Alors, vous prennent pour des espions parce que, en fait, vous déteniez des téléphones satellitaires,
oui.
22 téléphones satellitaires.
C'est pas bien.
Ce qui est, on est donc à la frontière du Bangladesh, du Népal et du Bhoutan, dans une zone où il y a des groupes rebelles, etc.,
voilà,
très surveillés. Et donc, vous êtes, vous avez été soupçonné d'espionnage et de trafic d'informations.
Alors, la raison des téléphones satellites, elle est simple, c'était que, pour des raisons de sécurité, les candidats ont dans leur sac à dos scellé un téléphone satellite pour pouvoir nous joindre à n'importe quel moment. Et c'est vrai que on savait que c'était un peu limite d'avoir des téléphones satellites. Vous savez que les fréquences appartiennent aux États et que forcément là, un téléphone satellite, ça peut effectivement. Et ce qu'on ne savait pas, c'est que les rebelles utilisaient le même téléphone satellite que nous. Bon, c'est des choses qui arrivent. Et donc voilà. Et donc du coup, on a été pris comme des complices. Mais, enfin, je pense pas qu'ils ont cru.
Thierry Yeub, ça s'est quand même joué en justice, hein. Vous avez des collaborateurs non, mais en fait, qui sont passés en cours de justice.
C'était le scénario du film Argo. Je sais pas si vous avez vu, mais c'était exactement la même histoire. Et au final, oui, il y a eu des collaborateurs qui sont restés là-bas plusieurs mois. Trois mois, je crois, pour ceux qui sont restés le plus longtemps. Et au final, une amende de 20 ou 30 euros. Donc c'est pour vous dire comment s'est terminée l'histoire. Et à cause de tout cela, on a été bloqués pendant 5, 6 jours.
Très bizarre. Ouais,
voilà, voilà. Alors ensuite, il y a eu la diffusion de cette saison 10, on n'était donc pas au bout de nos surprises, et un boycott qui est né sur les réseaux sociaux. J'en parle parce qu'on était en 2014. En 2014, finalement, c'était relativement peu fréquent comme opération, mais ça a presque fait cas d'école. Vous avez tourné une partie du programme en Birmanie, je rappelle, les Rohingyas, minorité une des plus persécutées au monde selon l'ONU, et puis voilà que naît un hashtag contre Pékin Express, très partagé sur la twittosphère, lancé par une association qui vous accuse de faire du divertissement sur la terre de l'horreur, je cite les mots de l'association, et voilà que plusieurs marques se désolidarisent de l'émission. Thierry Guillaume, ça vous vous y attendiez pas et vous n'aviez absolument pas anticipé ce genre de réaction.
À l'époque, on en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui.
Les Rohingyas, oui, c'était un génocide qui était très peu médiatisé.
Ouais. Et puis, c'est une tradition aussi dans ce programme. On a été dans beaucoup de pays et on voit souvent les pays en omettant ou en ne parlant pas des problèmes qui peuvent s'y passer. C'est la vision de ce programme. Et les Rohingyas, à l'époque...
Vision que vous assumez complètement.
Non, mais alors, à l'époque, pour les Rohingyas, c'est très particulier parce qu'on en parlait vraiment, on n'a pas vu le problème arriver. On n'était pas conscient de tout cela. Et on était très heureux de pouvoir aller en Birmanie puisque c'était un pays très fermé encore à l'époque.
Qui commençait à peine à s'ouvrir au tourisme.
Donc c'était vraiment le tout début. Et puis cette association, effectivement. Mais honnêtement, la polémique qu'il y a eu à ce sujet n'a rien à voir avec l'arrêt pendant 4 ans du programme.
Non, mais c'est pour dire que forcément, les choses changent, les influences changent, notamment avec les réseaux sociaux. Et que forcément, quand on trimballe un programme de pur divertissement dans des pays où il se passe des choses aussi extrêmement graves, on se pose la question. On se pose forcément la question.
Oui, on se pose des questions.
Et plus ça va aller, plus on va se poser la question.
Pour la Birmanie, on ne se l'était pas posé parce qu'effectivement, ce sujet n'était pas encore un sujet d'actualité.
Voilà. Et aujourd'hui, que vous redessinez de nouveaux parcours, c'est des choses que vous prenez en compte désormais.
Maintenant, on fait très attention. Et puis, avec les réseaux sociaux, avec etc. Effectivement, dès que quelqu'un lance un sujet, il est repris ou pas. Et là, en l'occurrence, avec les Rohingyas, il a été repris beaucoup. Et c'est vrai que certains annonceurs...
Voilà, c'était du programme. Et puis, vous parliez, Stéphane Rothenberg, de la sécurité de vos candidats qui sont quand même lâchés à l'autre bout du monde pendant plusieurs semaines. Petit passage de ce qui s'était passé en Inde avec deux de vos candidates.
Sans déconner, regarde la rue. Ils sont 100 à nous suivre. C'est l'émeute. On est là depuis 2 minutes. On dirait qu'on va donner un concert. Les blondes en Inde, c'est le miel et les abeilles, tu vois, c'est la ruche. Celle-là, j'aimerais bien la jouer low profile, tu vois, mais apparemment c'est pas possible ici.
Alors les images sont assez impressionnantes, hein. C'est vraiment tout un groupe d'hommes qui les entourent et voilà. Ils sont filmés en permanence, vos candidats, ou pas ?
Jusqu'au soir, une fois qu'ils ont trouvé un logement et qu'ils se couchent, le caméraman lui rentre et va rejoindre éventuellement d'autres collègues quelque part sur la route pour dîner avec les journalistes et les caméramans et se coucher, donc on les retrouve au petit matin. Donc c'est vrai qu'il y a une zone, on va dire 21h, 7h du matin à peu près, hein. Voilà, un peu ou prou, où les candidats sont chez l'habitant. Ouais. Dans ces cas-là, effectivement, une fois qu'ils ont trouvé une maison, maintenant avec les GPS c'est plus simple, on envoie le chargé de sécurité vérifier l'endroit.
Voilà.
C'est-à-dire qu'effectivement, seul le médecin, Thierry et le chargé de sécurité, Thierry Guillaume le producteur, ont une capacité d'intervenir sur le déroulement de la course. Et si le responsable de sécurité considère le logement choisi par les candidats ou les hôtes comme... dangereux, douteux. Dans ces cas-là, le responsable de sécurité peut dire au candidat, désolé, tu cherches une autre maison.
Je rappelle, voilà. 1 euro par jour, hein, pour le duo.
Pour le duo. Il faut quelqu'un vous accueille. Il n'y a pas d'hôtel, voilà, il faut quelqu'un vous accueille.
Et c'est une course contre la montre, donc parfois, il faut pouvoir s'arrêter, voilà, et il faut pouvoir atteindre, parce que sinon, on perd l'étape.
Exactement, donc les candidats cherchent demandent le gîte et le couvert, on leur offre généralement bien volontiers, parfois ils rament, mais parfois ils y arrivent, mais c'est vrai qu'il y a cette notion de sécurité, parfois les gens ne se méfie pas. Les dangers sont rares, mais c'est vrai que c'est bien que quelqu'un responsable de la sécurité. Alors, nos gars de sécurité sont incroyables. Hein, c'est généralement ces anciens membres des services secrets ou de forces spéciales qui sont dans le privé, qui ont monté leur société.
Qui travaillent avec vous.
Voilà, pour protéger les Occidentaux ou les autres d'ailleurs, au bout du monde, parce qu'ils connaissent le terrain, ils connaissent les gens. Donc, ça nous aide beaucoup. Il n'y a jamais de garantie.
Mais c'est devenu une vraie question, Thierry Guillaume. C'est-à-dire que le jeu d'aventure après Koh-Lanta, ce qui vient de se passer cette année, c'est-à-dire l'annulation de la prochaine saison en plein tournage. Il y a eu une plainte pour agression sexuelle, le dossier est en cours d'instruction. Il y a eu la crise cardiaque, on s'en souvient très bien, d'un candidat dans Koh-Lanta également, le suicide d'un médecin. Il y a eu l'accident d'hélicoptère sur le tournage de Dropped. Et là aussi, s'en est suivi un long procès. C'est-à-dire, on sent qu'il y a beaucoup plus de pression qu'auparavant sur les producteurs de jeux d'aventure.
Oui, mais c'est normal, parce que on a la responsabilité des gens qu'on emmène, des candidats, mais aussi nos équipes. Et sur Pékin Express, vous parliez des nuits chez l'habitant, mais on sait que le principal risque n'est pas là. Nos candidats passent 6 à 7 heures par jour dans des voitures. Et si on regarde les statistiques d'accidents de la circulation, même en France, le plus gros risque de ce programme, il est là. C'est même pas les nuits, parce que les nuits, on a des moyens de les surveiller, de les protéger, de les accompagner. Pendant les trajets, ils montent dans des voitures avec des chauffeurs qu'on ne connaît pas, dont on n'a pas vérifié l'état des voitures, et on demande à tout le monde d'être vigilant, les caméramans, les candidats, mais le plus gros risque, il est là.
Stéphane Rottenbach, vous n'avez pas eu un petit accident
de
voiture?
Entièrement de ma faute.
Mais
sur Pékin Express, effectivement, j'ai eu un accident de tuk-tuk.
Un accident de tuk-tuk, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va montrer de tous ces périples? Qu'est-ce qui en fait le sel? Où est-ce que vous fixez la limite? On sait que cette année, il y a eu aussi Wild sur M6.
C'est produit par lui aussi.
Voilà, produit par Thierry Guillaume. Alors, c'est un jeu de survie, c'est très différent. C'est un jeu de survie, Wild, à qui on doit une séquence de diarrhée qui a beaucoup, beaucoup fait parler cette année sur M6.
Je me sens comme après une méchante gastro ou une méchante grippe. Et je suis obligée de m'arrêter très souvent. Merde.
Voilà, alors Samantha se tord les boyaux derrière un buisson. On ne voit rien, mais vous avez laissé brancher le micro et vous avez diffusé ce son très appuyé, ce qui a horrifié cette candidate quand elle s'est découverte à l'antenne d'M6. Voilà, elle s'en est offusquée. M6 s'est excusée. La semaine suivante, on pouvait la voir accroupie, les fesses à l'air, le string baissé, en train de faire pipi. Est-ce qu'on a franchi une limite dans ce qu'on montre dans le jeu d'aventure, Thierry Guillaume?
Oh, j'allais vous dire non.
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 Il semblerait que oui, quand même.
En l'occurrence, la scène de l'épisode 2 où elle s'agenouille pour boire son urine, elle était à 2 mètres du cadreur et ça ne lui posait pas de problème. Mais en fait, la survie... Non, on peut avoir deux visions de la survie. La vision de la survie de Wild, c'était de montrer une réalité. La survie n'est pas forcément sexy.
Ça, on est bien d'accord. Mais c'est-à-dire que dans les jeux d'enfermement type Love Story ou Secret Story, on sait très bien qu'on n'a pas le droit de filmer, règle du CSA dans les toilettes, ça c'est sûr. Mais dans les jeux d'aventure, on a déjà vu des warriors en tout genre, des Bear Grylls, ça boire leur urine. Les voir uriner sous la caméra quand même, rarement, non?
Ben oui, c'était une première.
Une première, on a donc bien franchi une étape. Est-ce que c'est dû aussi à cette surenchère de programmes d'aventure et de survie où on va toujours un peu plus loin?
Non, là je crois que c'était vraiment un reflet de la réalité. Ces aventuriers qui n'avaient rien pour s'hydrater, ben à un moment, très vite, eux qui ont l'habitude de pratiquer la survie nous disent, ben oui, le seul moyen de s'en sortir, c'est de boire son urine. Donc on l'a
après, vous avez le choix de ce que vous diffusez ou ce que vous diffusez pas, ce que vous montrez.
Ça montre la réalité de cette survie.
Bon, alors donc, on est assez loin de ça dans Pékin Express, qui reste quand même jeu familial, etc., etc. Il y a beaucoup de vomi dans Pékin Express. Non, moi j'ai trouvé des tonnes d'extraits. C'est-à-dire que le tuk-tuk, ça secoue.
Voiture, on n'est pas bien.
C'est ça. Ça a donné aussi des parodies quand même de Pékin Express. Il y a une séquence culte de Chris Esquer qui joue avec les vomis de Pékin Express. Il y a, donc, je l'ai dit, c'est pas très transgressif, Pékin Express. C'est surtout la pression sur le terrain, l'heure qui tourne, et puis des engueulades. Alors là, il y a des engueulades.
Ça, il y en a beaucoup.
Ah, ça, il y a des engueulades.
Des couples partent au bout du monde. Donc
alors, justement, là, il y a un petit couple, ils sont tout jeunes, tout mignons. Ils partent avec vous, là, cet été. Enfin, en réalité, ils sont déjà partis, parce que vous venez juste d'achever le tournage au mois d'avril. Et à la première difficulté, ils se hurlent dessus.
Aide-moi.
Mais je fais, là. Je suis
non,
en train
mais
de
tu débiles, mais faut de la force, Maxime. Putain. Je suis pas aidée. C'est bon, vas-y, à droite, sinon on va trop aller à droite, sinon. Allez à droite, je t'ai dit. À droite.
Ta gueule, putain, j'ai compris, bébé.
Par contre, là, tu me dis pas ta gueule.
Non mais en fait c'est terrible Pékin Express parce qu'on part avec quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on aime.
Voilà.
Et donc ça multiplie
les fâcheries et les fâcheries à vie. Vous avez séparé beaucoup de vieux amis et
beaucoup. Non, en revanche, c'est vrai qu'ils se découvrent parce que on est tellement poussé loin comme
dans
jamais.
Limites,
On dévoile à l'autre des forces inconnues et des faiblesses inconnues. Et c'est jamais facile de montrer à l'autre ses faiblesses, ses forces. On est content, on bombe le torse. Voilà, et les faiblesses. Et c'est vrai que le duo tient lorsque il y a une infinie indulgence. Voilà. Les engueulades, c'est jamais très grave. Ça revient toujours.
Mais vous les castez comment? Parce qu'en réalité, vous cherchez des grandes gueules aussi. Vous cherchez des gens qui ont un vrai esprit de compétition, parce qu'il faut tenir quand même plusieurs semaines ce rythme-là et cette pression-là.
Un des premiers critères, c'est d'être sûr que les candidats ne vont pas abandonner au bout de deux jours parce que c'est beaucoup trop difficile pour eux. Donc oui, il faut qu'ils soient solides, il faut qu'ils aient du caractère, il faut qu'ils aient de la personnalité.
C'est ça, vous cherchez des grandes gueules quand même.
Pas que. Il y a un bon casting de Pékin Express, ça regroupe tout. Des grandes gueules, des gens qui nous font rire, des gens qu'on va aimer détester, des gens qui nous ressemblent. Enfin bref, il faut un mélange de tout pour que le téléspectateur s'y retrouve.
Et quand je disais ce mot d'aventure, vous qui êtes producteur justement de ce type de programme, vous pouvez nous expliquer pourquoi depuis les débuts de la télé-réalité et des télécrochets, on utilise le mot aventure pour dire je suis fier de participer à l'aventure, je suis triste de quitter l'aventure, que ce soit une émission de musique ou de cuisine. Non, vous qui animez Top Chef aussi.
Ce sont de vraies aventures.
On quitte une cuisine et on quitte l'aventure.
Oui, mais parce que si vous voulez, c'est vrai que c'est
le mot le plus tarte à la crème de la télévision française.
D'accord. Mais en fait, c'est tellement sorti du quotidien qu'il y a quelque chose. Mais effectivement, même quand c'est un concours de cuisine ou un concours de chant,
on ne dit jamais le mot jeu, on ne dit jamais le mot concours, on ne dit jamais le mot programme, on ne dit jamais le mot émission.
Beaucoup compétition dans Pékin.
Ouais.
J'utilise beaucoup. Moi, j'utilise peu aventure d'ailleurs. Mm-hmm. Mais les candidats, effectivement, il y a une sorte ayant vu tellement d'émissions de télévision, je pense qu'ils réutilisent ça d'eux-mêmes. Je pense pas qu'on leur souffle ça. Moi, naturellement,
c'est ça. C'est rentré dans la.
Oui, je crois que c'est rentré vraiment. Parce que moi, j'utilise beaucoup compétition parce que la course est une compétition. Pour le coup. Et le programme en général est une aventure. Lorsqu'on va chercher le gîte et le couvert chez les gens, c'est plus la compétition.
Et
c'est vrai que du coup, les gens utilisent ce mot-là. Mais je crois que c'est parce que dès que ça sort à ce point du quotidien, dès que c'est un tel challenge personnel, Top Chef, peut-être The Voice, bon, voilà. Dès que ça
mais
devient
un
challenge
personnel. Gimmick,
je suis d'accord. C'est un abus de langage terrible.
Un abus de langage.
Mais je comprends l'idée.
Voilà.
Je comprends l'idée.
Thierry Guillaume, il y a quand même un vrai enjeu sur les audiences cette saison puisque ce n'est ni l'arrestation de vos camarades, ni les polémiques qui ont surgi lors de la dernière saison qui l'ont fait arrêter. C'est simplement que les audiences avaient énormément baissé, que le programme s'était un peu usé, ses ressorts, etc. Il y avait une forme de lassitude. Donc là, il y a un gros enjeu sur l'aventure de cet été.
Oui, il y a un gros enjeu, mais je vais vous dire...
Dites-moi.
Quand je vois... moi, je produis ce programme depuis 8 saisons, je crois. Je l'ai retrouvé avec énormément de plaisir. Et retrouver ces candidats, ces binômes... au bout du monde, avec quelques nouvelles règles qu'on a apportées au programme, qui changent, je crois, le programme sans vraiment modifier l'ADN de ce que c'est. Écoutez, moi j'ai pris un plaisir dingue à retourner sur la route, à le repasser du temps en post-production.
À repartir à l'aventure.
Et je ne l'ai pas dit, j'ai dit sur les routes. Mais oui, il y a un gros enjeu, mais honnêtement, je pense qu'on revient avec une bonne saison.
Allez, rendez-vous le 12 juillet prochain sur M6 et que le meilleur gagne. Donc la finale, ce sera pour le mois de septembre.